Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour ces moments, pour ce témoignage, pour ces chants, pour l'introduction qui vaut bien un message. Vous ne trouvez pas ? Voilà, on va faire quelques lectures. Je vous propose d'abord, dans le livre de la Genèse, une lecture au chapitre 11. Genèse 11, les versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la face de toute la terre. » On va au début du chapitre 12, suivant, 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Haran, Abraham prit Sarai, sa femme. Non, mais j'avais peur que vous vous endormiez. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Maintenant, dans l'Évangile selon Jean, on va aller au début, au chapitre 1. Voilà. Verset 35. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et vous verrez. » Le futur. Hein. « Venez et vous verrez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ 4 heures de l'après-midi. On va ajouter encore deux petites lectures dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, à partir du début. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. où demeures-tu ? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place ? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On va lire aussi au chapitre 13 de la lettre aux Hébreux. Chapitre 13, versets 12 à 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à entendre ce qu'il a à nous dire. Vous le savez comme moi, les conflits de toutes sortes, les changements climatiques, les transformations de l'économie alimentent un flot grandissant de personnes déplacées, arrachées de leur lieu de vie et jetées sur les routes de la précarité. Donc, la question des migrants nous préoccupe de plus en plus. Elle mobilise les uns, inquiète les autres. En pensant à cela, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut voir ces réalités, je dirais pas différemment, mais est-ce qu'on peut se contenter de les voir du dehors, comme si nous n'étions pas concernés, nous aussi, comme si nous-mêmes étions immunisés contre ces menaces qui déstabilisent le monde. Bien sûr que non. Or, la méditation de ces textes nous invite à opter pour une mentalité de nomade. Même si nous habitons des maisons en dur, des maisons stables, même si nous participons à une société de prospérité et d'abondance. La Bible est un livre de nomades. Elle nous invite à porter un regard différent, solidaire. Oui, nous sommes tous des requérants d'asile. Rabbi, où demeures-tu ? Que cherche-t-il ? Jésus leur pose la question. J'ai été longtemps intrigué par l'aspect quelque peu banal de ce dialogue. Jésus voit qu'ils le suivent. Qu'est-ce que vous cherchez ? Où habites-tu ? Oh. Ce n'est pas des questions métaphysiques. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais au fond, ce à quoi l'Évangile, à travers ces textes, nous invite, c'est à nous déstabiliser, à nous arracher, à placer notre espérance et notre assurance dans ce Seigneur itinérant, dans ce descendant d'un nomade qui s'appelle Abraham. Oui, c'est d'eux que nous sommes les héritiers. Les choses peuvent faire illusion parfois. La prospérité de nos sociétés, leur apparente stabilité font illusion, je pense. « Que cherchez-vous ?» demande Jésus à ceux qui se mettent à le suivre. Et ceux-ci répondent « Maître, où habites-tu ? » Et il leur dit « Venez, vous verrez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure, selon le compute de cette époque, le compute romain. Jean ne nous donne pas l'adresse postale de Jésus. Il reste volontairement évasif. Et l'emploi du futur, « Venez et vous verrez », laisse comme un sentiment de flottement. Il y a ici un paradoxe entre le verbe « demeurer » et la marche avec Jésus. Au fond, on pourrait dire ceci, les disciples habiteront le nomadisme de Jésus. C'est bizarre comme expression, c'est un peu antinomique. Habiter le nomadisme. D'ailleurs, les déplacements continuels de Jésus marquent les récits évangéliques, vous le savez. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Derrière l'apparente banalité de ce dialogue, et pour parler comme les musiciens, la tonalité majeure de l'Évangile nous est donnée ici. Suivre Jésus, c'est s'arracher, se désinstaller, commencer une aventure spirituelle, humaine, collective et individuelle. Il n'est pas évident pour nous de nous considérer comme des migrants demandeurs d'asile, d'adopter cette mentalité. Et au fond, c'est un appel à vivre une sorte, oui, je vais dire le mot en grec, c'est métanoïa, un changement de mentalité. Le récit de la tour de Babel, enfin la ville et la tour de Babel, témoigne au contraire d'une volonté de mettre fin à l'insécurité de l'errance. Ils arrivèrent, on ne sait pas qui sont ces gens, on n'a pas leur nationalité, c'est les hommes de cette époque-là, voilà. Il y a chez eux un désir d'installation définitive, de rendre cette assise irréversible. Ils veulent construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ce n'est pas un gratte-ciel, mais c'est un désir d'échapper à la finitude, de rendre irréversibles leurs entreprises. Toucher le ciel, c'est toucher à ce qui est permanent. D'ailleurs, si on se rappelle que c'était le siècle de l'astrologie, pourquoi les humains ont toujours été fascinés par les étoiles ? Pourquoi ont-ils établi des calendriers, des programmes, des stratégies par rapport aux étoiles ? Ce qui est d'ailleurs condamné par la Bible. Hein ? Mais parce que le ciel donne l'impression d'être immuable. Et ces hommes disent « Nous voulons devenir ça !» Nous voulons devenir comme cette immuabilité, on dit comme ça, ou immutabilité ? Immuabilité, hein ? Nous voulons donner ce caractère immuable à notre entreprise, ne pas être dispersé, se faire un nom. Se faire un nom. Et il y a là beaucoup de similitudes avec notre époque. Ils veulent construire avec des briques toutes semblables et interchangeables. C'est déjà Big Brother. Tout unifié, tout standardisé, aller toujours plus vite, être de plus en plus efficace, être de plus en plus rentable. Et le mortier dont ils se servent, d'où vient-il ? De la décomposition, de la mort de milliards et de milliards d'éléments vivants, le bitume. Je ne sais pas combien d'années il faut pour faire du pétrole. Mais je sais que c'est long. Il faut une éternité. Et l'éternité, c'est long, hein. Surtout vers la fin. Bon, je l'ai dit. Tout dans ce récit nous montre que ces hommes, avec leur désir un peu fou, se dirigent vers la mort. Et notre monde, notre siècle, se dirige vers sa mort. Vous le savez, ça ? Heureusement, nous, les chrétiens, nous avons une certitude, c'est que Dieu reste le Seigneur du temps, de l'espace, et il nous a fixé un rendez-vous. Nous nous sommes mis en route. Je ne vais pas dire en marche parce que ça fait trop penser à qui vous savez. Nous nous sommes mis en route par l'appel que l'évangile de Jésus-Christ nous a adressé. Dieu voit le danger de leur entreprise mortifère. Et il veut les sauver. Et que fait-il ? Il brouille la communication. Ils ne savent plus ce qu'ils racontent, ils ne s'entendent plus les uns les autres. Je me dis des fois, mais ce serait amusant de voir que, par exemple, on coupe l'électricité. Plus d'électricité nulle part. Qu'est-ce qu'on va devenir là ? Nos ordinateurs, nos machins. Parce que vous savez que c'est possible. Il y a des armements qui sont à l'étude, des sortes de bombes qui exploseraient en altitude et qui détruiraient tous les systèmes électroniques d'une région donnée. Peut-être pas du monde entier, mais en tout cas dans une région donnée, il y a, je ne sais pas si c'est les Russes ou les Américains, oh, je crois qu'ils y sont tous plus ou moins mêlés à cette affaire. Une arme capable de bloquer toute communication. Ben, c'est un peu ce qui leur est arrivé. Passe-moi une brique. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Voilà. Et la tour s'arrête. L'entreprise humaine s'arrête. Et Dieu sauve par là, non pas son honneur. Dieu n'était pas fragilisé. Dieu ne se sentait pas menacé. Et il ne se sentira jamais menacé par nos entreprises, fussent-elles d'une technologie extraordinaire. Dieu ne s'est pas senti menacé, mais il a vu la menace qui pesait sur eux. Il a brouillé leur langage et la tour, la construction s'est arrêtée. Mais la réponse de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne se contente pas d'empêcher la construction de la ville et de la tour. La réponse de Dieu, elle est au chapitre suivant, début du chapitre 12. Dieu s'approche d'un homme. Voyez le contraste ? Les hommes, la foule, la grande ville, la métropole. Et puis, un homme, Abraham. Dieu s'approche d'un seul être. Et que lui dit-il ? Arrache-toi à toutes tes matrices, familiales, culturelles, religieuses, tout ce qui t'a fabriqué, tout ce qui t'a formé, arrache-toi à cela. Tourne-toi de l'autre côté, regarde vers l'avant. Arrête de conduire les yeux rivés au rétroviseur. C'est dangereux, ça, vous savez. Va où je te dirai. Là encore, on retrouve une imprécision, comme au début de l'évangile de Jean. Il ne lui dit pas où il va l'emmener. Il lui dit, fais-moi confiance. Et Abraham, fais confiance. Va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu lance Abraham dans l'aventure de la foi. Et il semblerait, bon, je ne suis pas hébraïsant, mais il semblerait que cet ordre de Dieu dise « va pour ton bien ». Va pour ton bien. Mais qui ne sera pas seulement ton bien à toi tout seul, mais un bien que je désire répandre à travers toi sur toute la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Va, deviens. Deviens une source de bénédiction. Âgé de 75 ans, 75 ans, c'est quand même, j'y suis pas encore, moi, vous vous rendez compte? Il part. Il emmène armes et bagages, serviteurs, troupeaux, famille, tout ça. Ça faisait quand même un petit groupe de personnes, je pense, mais allez, on part. Mais tu vas où, papa? Non, il n'avait pas de fils à l'époque. Tonton. Eh ben, je sais pas, mais on y va. Parce que Dieu m'a dit d'y aller. Et il se met en route. Il fait confiance au Dieu qui s'est révélé à lui. Pour ainsi dire, Abraham s'installe dans le nomadisme. Il habitera même le symbole même du nomadisme, sous des tentes. On ne peut pas mieux décrire les antipodes de la ville de Babel, de l'esprit de Babel. Vous savez, cet esprit babélien, il nous guette. Hein ? Il guette parfois les églises, même. On veut toujours plus grand, toujours plus impressionnant. Mais rien ici-bas n'a de fin en soi, même l'église. L'Église n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen. Il ne faut jamais confondre les fins et les moyens. Les Églises sont des moyens d'annoncer l'Évangile. C'est la caisse de résonance de l'Évangile. C'est le tam-tam de Dieu. Oui, nous devons raisonner. Mais pas autant au sens intellectuel, mais au sens sonore. Faire résonner. L'Église devient un catéchisme vivant. Et c'est sa vocation ici-bas. Mais pas de s'installer elle-même, pas de se préoccuper d'elle-même, de se soucier de sa durée, de la durée de ses institutions, de la beauté de ses bâtiments, et de la richesse des moyens techniques dont elle se donne les moyens. Non, l'Église, elle est voyageur et pèlerin sur cette terre. Elle le restera toujours. Oui, il habitera sous des tentes, Abraham. Ça ne signifie pas que l'errance sera son fin. Mais dès aujourd'hui, Jésus promet un autre enracinement. C'est pourquoi j'ai lu ces quelques versets du chapitre 14. Jésus nous parle de la maison du Père. C'est là que sont nos racines maintenant. Quand Jean dit par exemple, « Le Fils qui est dans le sein du Père », Jésus était sur la terre à ce moment-là. Mais il était en même temps dans le sein du Père. Jésus habite une demeure dans laquelle il nous veut avec lui. Alors je sais que ces versets du chapitre 14, on les schématise. On voit Jésus qui meurt, qui ressuscite, qui monte au ciel, puis là il est en train de préparer des logements. Des petits HLM. Il est en train de préparer des demeures diverses. Alors, il y en a qui font des gradations, qui spéculent un peu sur le luxe ou le non-luxe des demeures que Jésus est en train de nous préparer et dans lesquelles il va nous emmener quand il reviendra. Alors, je ne partage pas du tout cette vision-là. D'abord, quand Jésus parle de la maison de son Père, il a aussi à l'esprit cette maison qui avait accueilli le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne lui, le temple. Et quand il dit « il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père », il se souvient du caractère exclusif du temple, où il n'y avait pas beaucoup de demeures. Il n'y avait pas des demeures pour tous, pas pour les étrangers, pas pour les malades et les infirmes, pas pour les femmes. Il paraît qu'il y avait des panneaux à l'entrée du parvis. Entrée interdite aux étrangers sous peine de mort. La cité interdite. C'est curieux parce que c'est une maladie, ça, dites donc. En Chine, il y a aussi une cité interdite. Et puis, il y a la Mecque. Hein ? Ben oui. C'est pas autorisé à tout le monde, hein. Non, il y a plein de lieux d'exclusion sur cette terre, avec nos notions à nous, nos images de Dieu que nous nous sommes fabriquées. Un Dieu qui exclut, un Dieu qui rejette. C'est pas le Dieu du pardon et de la réconciliation. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est ce Dieu du pardon et de la réconciliation des peuples. C'est pourquoi Jésus est venu. Et quand il dit « Je m'en vais vous préparer une place dans cette maison du Père où moi je suis, moi, ego eimi, moi je suis dans la maison du Père, dans ce lieu de vie extravagante, surabondante, cette vie qu'il veut pour ses brebis. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pas sous perfusion, goutte à goutte. » Une vie en abondance, la vie de l'Esprit. L'Esprit qui a donné à Jésus d'être ce qu'il a été sur la terre. Il nous est donné. Vous ne réjouissez pas ? Mais c'est merveilleux, ça. Cette maison du Père, où la vie abonde et où moi, je suis, je vais vous y préparer une place. Je m'en vais. Je m'en vais vous y préparer une place. Alors, toute la question est de comprendre ce mot, ce qu'il veut dire par ce départ. On pense souvent à l'ascension, mais ce n'est pas l'ascension. Jésus, quand il parle de son départ, parle de la croix, de sa mort. Jésus s'anéantit lui-même dans la mort. Il s'en va, il le perd. Mais ce qu'ils doivent comprendre... C'est que s'ils perdent Jésus dans la mort, c'est en réalité parce que lui, par sa mort, leur ouvre le ciel. La croix, c'est la clé qui ouvre la maison du Père. Voilà ce qu'ils devront comprendre. Et quand je m'en serai allé par la mort et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai par la résurrection. Il est revenu vers eux. Il les a pris avec lui, avec une infinie patience d'ailleurs, avec délicatesse. Il les a pris avec lui. Il les a rejoints pendant 40 jours. Il s'est montré à eux. Il a rejoint celle qui pleurait au tombeau. Elle pensait que c'était le jardinier. Marie. Rabouni. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Pour moi, c'est le plus beau verset. Il les a pris avec lui, afin que là où il est, lui, nous y soyons aussi. Excusez-moi. Je sais que ça surprend un petit peu cette interprétation, ça bouscule un peu les interprétations traditionnelles. On n'est pas obligé de l'adopter, hein. Mais il me semble que pour parler du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église, il y a d'autres textes tout à fait clairs. Pourquoi vouloir faire dire dans ces paroles de Jésus autre chose que Il est parti, il est mort, il est revenu, il est ressuscité, il les a pris avec lui, afin que là où il est, lui, nous y soyons aussi. Alors, c'est un enracinement, mais un enracinement en haut. Nous sommes des arbres bizarres. Nous avons les racines au ciel. On a peut-être été vu par cet aveugle à qui Jésus demande « Est-ce que tu vois ?» Je vois comme des arbres, mais qui marchent. Ben, peut-être c'est nous, ça. Des arbres enracinés en haut et qui marchent. On dirait une peinture de Dali. C'est maintenant, pas le changement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous accédons à ce lieu sûr où la vie surabonde. Paul écrit aux Éphésiens, « En lui, vous êtes assis dans les lieux célestes. » Tiens, retrouve l'assise là. Vous êtes assis dans les lieux célestes, en lui, avec lui. Maintenant, et je crois que ceci devrait nous aider à revisiter nos valeurs, revisiter ce après quoi nous courons, ce que nous estimons précieux, important. C'est un peu un chambardement quand même, hein, que le Seigneur fait dans nos vies. Mais enfin, je vais terminer par là. Il y a quand même un paradoxe. Cette assise spirituelle, cet enracinement là-haut, n'engendre et ne doit pas engendrer l'indifférence à l'égard du monde. Mais elle nous engage solidairement aux côtés de celles et ceux que broie notre terrible actualité. Être assis dans les lieux célestes ne fait pas de nous des rêveurs, des planeurs. Mais elle doit autant mieux nous renvoyer vers notre monde souffrant. Il y a un bel exemple qui nous est donné dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Il y a le récit de la mort et de la résurrection de Lazare. Ce récit m'a toujours étonné. Jésus apprend que Lazare est malade, il n'y va pas. Et puis, plein d'assurance, il dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ah ben, tout va bien. 4 jours après, il y va. Il arrive, Marthe court au-devant de lui, lui annoncer la mort de Lazare. Mais il en avait parlé lui-même. Hein. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ah, s'il dort, il va être guéri. « Ah, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, » dit Marthe. « Ton frère ressuscitera. » Quelle assurance ! « Oui, oui, je sais bien, au dernier jour. » « Non, non, moi je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela ?» Marthe dit, « Bah oui, oui, je crois que tu es le Christ. » Le sauveur, celui qui devait venir dans le monde, tout va bien. Et puis Marthe fait appeler Marie, sa sœur, qui est restée à la maison. Et Marie vient vers Jésus. Et quand elle arrive, elle se prosterne à ses pieds et lui dit la même chose que Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et là, pouf, tout change. Tout change. Jésus est ému dans les entrailles. Mais il est secoué, mais comme ce n'est pas permis. Et là, il pose une question. Où l'avez-vous mis ? Et voyez-vous, dans cette question, j'entends l'écho de la question des disciples au début. Où habites-tu ? Où demeures-tu ? Où est-ce que ta vie se déroule ? Mais là, Jésus ne peut dire qu'une chose. Où l'avez-vous mis, cette chose, qui est le cadavre de Lazare ? Et ils répondent, qu'est-ce qu'ils répondent ? Viens et vois. Comme en écho à « Venez et vous verrez ». Vous voyez, comme ça, dans l'Évangile, il y a des harmoniques, comme en musique. Ça se répond. Et ça nous montre que celui qui est la résurrection et la vie n'en ressent pas moins la solidarité avec la famille de Lazare. Il n'en partage pas moins leur douleur profonde. Jésus pleura. Voyez-vous, il y a ce côté étonnant, cette espèce d'assurance triomphante, magnifique. Quand il est devant le tombeau, qu'est-ce qu'il dit ? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et pourtant, il a pleuré. Pour moi, c'est là l'exemple de ce que nous devons être capables de vivre, c'est-à-dire en étant transportés d'allégresse, parce que le Seigneur nous a pris avec lui. Là-haut, nous sommes enracinés là-haut, mais nous devons partager encore la détresse de notre monde. Nous devons encore les aimer, les servir, justement au nom du Seigneur. Pour terminer, il y a ce curieux verset de l'Épître aux Hébreux. Il invite ses lecteurs à sortir de l'installation en prenant pour exemple le fait que Jésus a souffert la mort en dehors de la ville de Jérusalem. Moi, j'aurais jamais pensé prendre ce détail, pour en faire l'exemple de ce que nous devons faire à la suite de Jésus. Sortons donc de la ville, de nos enracinements, de nos installations. Sortons donc pour aller à lui en portant son opprobre. Et il ajoute, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est audacieux comme exégèse, je trouve. Enfin, comme méditation. Mais ça, les auteurs du Nouveau Testament nous y ont habitués. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous appelles. Tu es toujours celui qui nous appelle, qui nous invite à nous mettre en marche, en route derrière toi, vers toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être subjugués, fascinés par la vie et l'histoire de notre monde. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui domine toute chose, qui domine l'histoire, le temps, les événements, c'est que toi, Seigneur, tu étais mort et tu es vivant au siècle des siècles et tu es celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. À toi la gloire. Seigneur, que ta paix, ton enthousiasme, ta confiance, nous soit renouvelé par le Saint-Esprit. Amen.